Chapitre 5, 1er juin au soir 1833. Journal de Carlsbad à Paris.
Sinti.
Egra. Wallenstein. Le chemin de Carlsbad jusqu'à Elbogen, le long de l'Egra, est agréable. Le château de cette petite ville est du XIIe siècle et placé en sentinelle sur un rocher, à l'entrée d'une gorge de vallée. Le pied du rocher, couvert d'arbres, s'enveloppe d'un pli de l'Egra. De là le nom de la ville et du château, Elbogen, le coude. Le donjon rougissait du dernier rayon du soleil lorsque je l'aperçus du grand chemin. Au-dessus des montagnes et des bois penchait la colonne torse de la fumée d'une fonderie. Je partis à 9h30 du relais de Svoda. Je suivais la route où passa Vauvenargues dans la retraite de Prague. Ce jeune homme à qui Voltaire, dans l'éloge funèbre des officiers morts en 1741, adresse ces paroles. « Tu n'es plus, ô douce espérance du reste de mes jours. Je t'ai toujours vu le plus infortuné des hommes et le plus tranquille. » Du fond de ma calèche, je regardais se lever les étoiles.
« N'ayez pas peur, Sinti.
Ce n'est que la susurration des roseaux inclinés par notre passage dans leur forêt mobile. J'ai un poignard pour les jaloux et du sang pour toi. Que ce tombeau ne vous cause aucune épouvante. C'est celui d'une femme jadis aimée comme vous. Cecilia Metellia reposait ici. Quelle est admirable cette nuit dans la campagne romaine. La lune se lève derrière la Sabine pour regarder la mer. Elle fait sortir des ténèbres diaphanes les sommets cendrés de bleu d'Albano, les lignes plus lointaines et moins gravées du Soracte. Le long canal des vieux aqueducs laisse échapper quelques globules de son onde à travers les mousses, les encolis, les gérofliers, et joint les montagnes aux murailles de la ville. Plantés les uns sur les autres, les portiques aériens, en découpant le ciel, promènent dans les airs le torrent des âges et le cours des ruisseaux. Législatrice du monde, Rome, assise sur la pierre de son sépulcre, avec sa robe de siècle, projette le dessin irrégulier de sa grande figure dans la solitude lactée. Asseyons-nous. Ce pin, comme le chevrier des Abruzzes, déploie son ombrelle parmi des ruines. La lune neige sa lumière sur la couronne gothique de la tour du tombeau de Metellia et sur les festons de marbre enchaînés aux cornes des bucranes. Pompe élégante qui nous invite à jouir de la vie sitôt écoulée. Écoutez, la nymphe Égérie chante au bord de sa fontaine. Le rossignol se fait entendre dans la vigne de l'hypogée des Scipion. La brise alanguie de la Syrie nous apporte indolemment la senteur des tubéreuses sauvages. Le palmier de la villa, abandonné, se balance à demi noyé dans l'améthyste et l'azur des clartés phébéennes. Mais toi, pâli par les reflets de la candeur de Diane, ô Sinti, tu es mille fois plus gracieuse que ce palmier. Les mânes de Délie, de l'Alagée, de Lydie, de Lesbie, d'Olympia, posés sur des corniches ébréchées, balbutient autour de toi des paroles mystérieuses. Tes regards se croisent avec ceux des étoiles et se mêlent à leurs rayons.
Mais, Sinti,
il n'y a de vrai que le bonheur dont tu peux jouir. Ces constellations si brillantes sur ta tête ne s'harmonisent à tes félicités que par l'illusion d'une perspective trompeuse. Jeune Italienne, le temps fuit. Sur ces tapis de fleurs, tes compagnes ont déjà passé. Une vapeur se déroule, monte et enveloppe l'œil de la nuit d'une rétine argentée. Le pélican crie et retourne aux grèves. La bécasse s'abat dans les prêles des sources diamantées. La cloche résonne sous la coupole de Saint-Pierre. Le plein chant nocturne, voix du Moyen-Âge, attriste le monastère isolé de Sainte-Croix. Le moine psalmodie à genoux les hante l'aude sur les colonnes calcinées de Saint-Paul. Des vestales se prosternent sur la dalle glacée qui ferme leur crypte. le Piferaro souffle sa complainte de minuit devant la Madone solitaire, à la porte condamnée d'une catacombe. Heure de la mélancolie, la religion s'éveille et l'amour s'endort.
Cinti, ta voix s'affaiblit.
Il expire sur tes lèvres le refrain que t'a pris le pêcheur napolitain dans sa barque vélivole, ou le rameur vénitien dans sa gondole légère. Va aux défaillances de ton repos. Je protégerai ton sommeil. La nuit dont tes paupières couvrent tes yeux dispute de suavité avec celle que l'Italie assoupie et parfumée verse sur ton front. Quand le hennissement de nos chevaux se fera entendre dans la campagne, quand l'étoile du matin annoncera l'aube, le berger de Frascati descendra avec ses chèvres, et moi je cesserai de te bercer de ma chanson à demi-voix soupirée. Un faisceau de jasmins et de narcisses, une ébée d'albâtre récemment sortie de la cavée d'une fouille ou tombée du fronton d'un temple, gît sur ce lit d'anémone. Non, muse, vous vous trompez. Le jasmin, l'ébée d'albâtre, est une magicienne de Rome, née il y a 16 mois de mai et la moitié d'un printemps. Au son de la lyre, au lever de l'aurore dans un champ de roses de Paestum. Vent des orangers de Palerme qui soufflait sur l'île de Circé, brise qui passait au tombeau du Tasse, qui caressait les nymphes et les amours de la Farnésine. Vous qui vous jouez au Vatican, parmi les vierges de Raphaël, les statues des muses, vous qui mouillez vos ailes aux cascatelles de Tivoli, génie des arts, qui vivez de chefs-d'œuvre et voltigez avec les souvenirs, venez, à vous seul, je permets d'inspirer le sommeil de Cinti. Et vous, fille majestueuse de Pythagore, parques à la robe de lin, sœurs inévitables assises à l'essieu des sphères, tournez le fil de la destinée de Cinti sur des fuseaux d'or. Faites-les descendre de vos doigts et remontez à votre main avec une ineffable harmonie. Immortelle filandière, ouvrez la porte d'ivoires à ces songes qui reposent sur un sein de femme sans l'oppresser. Je te chanterai, ô canéphore des solennités romaines, jeune charite nourrie d'ambroisie au giron de Vénus, sourire envoyé de l'Orient pour glisser sur ma vie, violette oubliée au jardin d'Horace. « Mein Herr, dit Kreutzer, bourre la parière. Peste soit de toi avec tes cruches, j'avais changé de ciel, j'étais si en train, la muse ne reviendra pas. Ce maudit Aigrat où nous arrivons est la cause de mon malheur. » Les nuits sont funestes à Aigrat. Schiller nous montre Wallenstein, trahi par ses complices, s'avançant vers la fenêtre d'une salle de la forteresse d'Aigrat. « Le ciel est orageux et troublé, dit-il. Le vent agite l'étendard placé sur la tour. Les nuages passent rapidement sur le croissant de la lune qui jette à travers la nuit une lumière vacillante et incertaine.
Wallenstein, au moment d'être assassiné, s'attendrit sur la mort de Max Piccolomini, aimé de Thécla. La fleur de ma vie a disparu. Il était près de moi comme l'image de ma jeunesse. Il changeait pour moi la réalité en un beau songe. Wallenstein se retire au lieu de son repos. La nuit est avancée.
On n'entend plus de mouvement dans le château.
Allons, que l'on m'éclaire.
Ayez soin que l'on ne me réveille pas trop tard.
Je pense que je vais dormir longtemps, car les épreuves de ce jour ont été rudes. Le poignard des meurtriers arrache Wallenstein au rêve de l'ambition, comme la voix du préposé à la barrière a mis fin à mon rêve d'amour. Et Schiller, et Benjamin Constant, qui fit preuve d'un talent nouveau en imitant le tragique allemand, sont allés rejoindre Wallenstein, tandis que je rappelle aux portes d'Aigrat leur triple renommée. Chapitre 6, 2 juin 1833. Weissentat.
La voyageuse.
Berneck et souvenir. Bayreuth. Voltaire. Hollfeld. Église, la petite fille à la hotte, l'hôtelier et sa servante. Je traverse Aigrat, et samedi 2 juin,
à la pointe du jour,
j'entre en Bavière. Une grande fille rousse, nu-pied, tête nue, vient m'ouvrir la barrière comme l'Autriche en personne. Le froid continue. L'herbe des fossés est couverte d'une gelée blanche. Des renards mouillés sortent des avenières. Des nues grises, échancrées, à grande envergure, sont croisées dans le ciel, comme des ailes d'aigle. J'arrive à Weissenstadt à 9 heures du matin. Au même moment, une espèce de voiturin emportait une jeune femme coiffée en cheveux. Elle avait bien l'air de ce que probablement elle était. Joie, courte fortune d'amour, puis l'hôpital et la fosse commune. Plaisir errant, que le ciel ne soit pas trop sévère à tes tréteaux. Il y a dans ce monde tant d'acteurs plus mauvais que toi. Avant de pénétrer dans le village, j'ai traversé des vastes. Ce mot s'est trouvé au bout de mon crayon, il appartenait à notre ancienne langue franque. Il peint mieux l'aspect d'un pays désolé que le mot « land » qui signifie « terre ». Je sais encore la chanson qu'on chantait le soir en traversant les Landes. C'est le chevalier des Landes, malheureux chevalier, quand il fut dans la lande, ah oui, les cinq sonnaient. Après Weissenstadt vient Berneck. En sortant de Berneck, le chemin est bordé de peupliers, dont l'avenue tournoyante m'inspirait je ne sais quel sentiment, mêlé de plaisir et de tristesse. En fouillant dans ma mémoire, j'ai trouvé qu'il ressemblait au peuplier dont le grand chemin était aligné autrefois du côté de Paris à l'entrée de Villeneuve-sur-Yonne. Madame de Beaumont n'est plus, Monsieur Joubert n'est plus, les peupliers sont abattus. Et après la 4e chute de la monarchie, je passe au pied des peupliers de Berneck. « Donnez-moi, dit saint Augustin, un homme qui aime, et il comprendra ce que je dis. » La jeunesse se rit de ses mécomptes. Elle est charmante, heureuse. En vain vous lui annoncez le moment où elle en sera à de pareilles amertumes. Elle vous choque de son aile légère et s'envole au plaisir. Elle a raison si elle meurt avec eux. Voici Bayreuth, réminiscence d'une autre sorte. Cette ville est située au milieu d'une plaine creuse, mélangée de céréales et d'herbages. Les rues en sont larges, les maisons basses, la population faible. Du temps de Voltaire et de Frédéric II, la margrave de Bayreuth était célèbre. Sa mort inspira au chantre de Ferney la seule ode où il ait montré quelque talent lyrique. « Tu ne chanteras plus, solitaire Sylvandre, dans ce palais des arts où les sons de ta voix, contre les préjugés, osaient se faire entendre. » Et de l'humanité faisait parler les droits. Le poète se loue ici justement, si ce n'est qu'il n'y avait rien de moins solitaire au monde que Voltaire Sylvandre. Le poète ajoute, en s'adressant à la margrave, « Des tranquilles hauteurs de la philosophie, ta pitié contemplait, avec des yeux sereins, les fantômes changeants du songe de la vie, tant de rêves détruits, tant de projets si vains. » Du haut d'un palais, il est aisé de contempler avec des yeux sereins les pauvres diables qui passent dans la rue. Mais ces vers n'en sont pas moins d'une raison puissante. Qui les sentirait mieux que moi? J'ai vu défiler tant de fantômes à travers le songe de la vie. Dans ce moment même, ne viens-je pas de contempler les trois larves royales du château de Prague et la fille de Marie-Antoinette à Karlsbad? En 1733, il y a juste un siècle. De quoi s'occupait-on ici? Avait-on la moindre idée de ce qui est aujourd'hui? Lorsque Frédéric se mariait en 1733, sous la rude tutelle de son père, avait-il vu, dans Mathieu Lesenberg, M. de Tournon, intendant de Bayreuth, et quittant cette intendance pour la préfecture de Rome?
En 1933,
le voyageur passant en Franconie demandera à mon ombre si j'aurais pu deviner les faits dont il sera le témoin. Tandis que je déjeunais, j'ai lu des leçons qu'une dame allemande, jeune et jolie nécessairement, écrivait sous la dictée d'un maître. « Celui qu'il est content est riche. Vous et je, nous, avons peu d'argent. mais nous sommes contents. C-O-N-T-E-N-T. Nous sommes ainsi, A-I-N-C-I, à mon avis, plus riches que tel qui a 1 tonne d'or. Et il est. C'est vrai, mademoiselle, vous et je avons peu d'argent. Vous êtes contente, à ce qu'il paraît, et vous vous moquez 1 tonne d'or. Mais si par hasard je n'étais pas content, moi, vous conviendrez qu'une 1 tonne d'or pourrait m'être assez agréable. Au sortir de Bayreuth, on monte. De minces pins élagués me représentaient les colonnes de la mosquée du Caire ou de la cathédrale de Cordoue, mais rapetissées et noircies comme un paysage reproduit dans la chambre obscure. Le chemin continue de coteaux en coteaux et de vallées en vallées. Les coteaux larges avec un toupet de bois au front, les vallées étroites et vertes, mais peu arrosées. Dans le point le plus bas de ces vallées, on aperçoit un hameau indiqué par le campanile d'une petite église. Toute la civilisation chrétienne s'est formée de la sorte. Le missionnaire devenu curé s'est arrêté. Les barbares se sont cantonnés autour de lui, comme les troupeaux se rassemblent autour du berger. Jadis, ces réduits écartés m'auraient fait rêver à plus d'une espèce de songe. Aujourd'hui, je ne rêve rien et ne suis bien nulle part. Baptiste, souffrant d'un excès de fatigue, m'a contraint de m'arrêter à Hollfeld. Tandis qu'on apprêtait le souper, je suis monté au rocher qui domine une partie du village. Sur ce rocher s'allonge un beffroi carré. Des martinets criaient en rasant le toit et les faces du donjon. Depuis mon enfance à Combourg, cette scène composée de quelques oiseaux et d'une vieille tour ne s'était pas reproduite. J'en eus le cœur tout serré. Je descendis à l'église sur un terrain pendant à l'ouest. Elle était sainte de son cimetière délaissé de nouveaux défunts. Les anciens morts y ont seulement tracé leur sillon, preuve qu'ils ont labouré leur champ. Le soleil couchant, pâle et noyé à l'horizon d'une sapinière, éclairait le solitaire asile où nul autre homme que moi n'était debout. Quand serais-je couché, à mon tour? Être de néant et de ténèbres, notre impuissance et notre puissance sont fortement caractérisées. Nous ne pouvons nous procurer à volonté ni la lumière ni la vie, mais la nature, en nous donnant des paupières et une main, a mis à notre disposition la nuit et la mort. Entré dans l'église dont la porte entrebâillait, je me suis agenouillé avec l'intention de dire un pater et un ave pour le repos de l'âme de ma mère, servitude d'immortalité imposées aux âmes chrétiennes dans leur mutuelle tendresse. Voilà que j'ai cru entendre le guichet d'un confessionnal s'ouvrir. Je me suis figuré que la mort, au lieu d'un prêtre, allait apparaître à la grille de la pénitence. Au moment même, le sonneur de cloche est venu fermer la porte de l'église. Je n'ai eu que le temps de sortir. En retournant à l'auberge, j'ai rencontré une petite hôteuse. Elle avait les jambes et les pieds nus. Sa jupe était courte, son corset déchiré. Elle marchait courbée, les bras croisés. Nous montions ensemble un chemin escarpé. Elle tournait un peu de mon côté son visage hâlé. Sa jolie tête échevelée se collait contre sa hotte. Ses yeux étaient noirs, sa bouche s'entrouvait pour respirer. On voyait que, sous ses épaules chargées, son jeune sein n'avait encore senti que le poids de la dépouille des vergers. Elle donnait envie de lui dire des roses. Rhoda, mère Cax. Aristophane. Je me mis à tirer l'horoscope de l'adolescente vendangeuse. Vieillira-t-elle au pressoir? Mère de famille obscure et heureuse, saura-t-elle emmener les camps par un caporal? Deviendra-t-elle la proie de quelque don Juan? La villageoise enlevée aime son ravisseur autant d'étonnement que d'amour. Il la transporte dans un palais de marbre, sur le détroit de Messine, sous un palmier au bord d'une source, en face de la mer qui déploie ses flots d'azur et de l'Etna qui jette des flammes. J'en étais là de mon histoire lorsque ma compagne, tournant à gauche sur une grande place, s'est dirigée vers quelques habitations isolées.
Au moment de disparaître, elle s'est arrêtée. Elle a jeté un dernier regard sur l'étranger. Puis, inclinant la tête pour passer avec sa hotte sous une porte abaissée, elle est entrée dans une chaumière, comme un petit chat sauvage se glisse dans une grange parmi des gerbes. Allons retrouver dans sa prison son Altesse royale, Madame la Duchesse de Berry. Je la suivis, mais je pleurais de ne pouvoir plus suivre qu'elle. Mon hôte de Hollfeld est un singulier homme. Lui et sa servante sont aubergistes à leur corps défendant. Ils ont horreur des voyageurs. Quand ils découvrent de loin une voiture, ils se vont cacher en maudissant ces vagabonds qui n'ont rien à faire et courent les grands chemins. Ces fainéants qui dérangent un honnête cabaretier et l'empêchent de boire le vin qu'il est obligé de leur vendre. La vieille voit bien que son maître se ruine, mais elle attend pour lui un coup de la Providence. Comme Sancho, elle dira « Monsieur, acceptez ce beau royaume de Micomicon qui vous tombe du ciel dans la main. » Une fois le premier mouvement d'humeur passé, le couple, flottant entre deux vins, fait bonne mine. La chambrière écorche un peu le français, vous bigle ferme et a l'air de vous dire « J'ai vu d'autres godelureaux que vous dans les armées de Napoléon. » Elle sentait la pipe et l'eau-de-vie comme la gloire au bivouac. Elle me jetait une œillade agaçante et maligne. Qu'il est doux d'être aimé au moment même où l'on n'avait plus d'espérance de l'être. Mais j'avote, vous venez trop tard à mes tentations cassées et mortifiées, comme parlait un ancien français. Mon arrêt est prononcé. Vieillard harmonieux, repose-toi, m'a dit monsieur l'herminier. Vous le voyez, bienveillante étrangère, il m'est défendu d'entendre votre chanson. Vivandière du régiment, j'avote, l'on me nomme, je vends, je donne et bois gaiement, mon vin et mon rogum. J'ai le pied leste et l'œil mutin, tintin, 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 rlin, tintin. C'est encore pour cela que je me refuse à vos séductions. Vous êtes légère, vous me trahiriez. Volez donc, dame Javotte de Bavière, comme votre devancière, madame Isabeau. Chapitre 7, 2 juin 1833. Bamberg, une bossue, Würzburg, ses chanoines, un ivrogne, l'hirondelle. Parti de Hollfeld, il est nuit quand je traverse Bamberg. Tout dort. Je n'aperçois qu'une petite lumière dont la débile clarté vient du fond d'une chambre pâlir à une fenêtre. Qui veille ici? Le plaisir ou la douleur? L'amour ou la mort? À Bamberg, en 1815, Berthier, prince de Neuchâtel, tomba d'un balcon dans la rue. Son maître allait tomber de plus haut. Dimanche 2 juin. À Dettelbach, réapparition des vignes. Quatre végétaux marquent la limite de quatre natures et de quatre climats. Le bouleau, la vigne, l'olivier et le palmier, toujours en marchant vers le soleil. Après Dettelbach, deux relais jusqu'à Würzburg et une bossue assise derrière ma voiture. C'était l'andrienne de Terence, Inopia, egregia forma o etate integra. Le postillon la veut faire descendre. Je m'y oppose pour deux raisons. Premièrement, parce que je craindrais que cette fée me jetât un sort. Deuxièmement, parce qu'ayant lu dans une de mes biographies que je suis bossue, toutes les bossues sont mes sœurs. Qui peut s'assurer de n'être pas bossue? Qui vous dira jamais que vous l'êtes? Si vous vous regardez au miroir, vous n'en verrez rien. Se voit-on jamais tel qu'on est? Vous trouverez à votre taille un tour qui vous sied à merveille. Tous les bossus sont fiers et heureux. La chanson consacre les avantages de la bosse. À l'ouverture d'un sentier, ma bossue, affistolée, mit pied à terre majestueusement. Chargée de son fardeau comme tous les mortels, Serpentine s'enfonça dans un champ de blé et disparut parmi les épis, plus haut qu'elle. À midi, 2 juin, j'étais arrivé au sommet d'une colline d'où l'on découvrait Würzburg. La citadelle sur une hauteur, la ville au bas avec son palais, ses clochers et ses tourelles. Le palais, quoique épais, serait beau même à Florence. En cas de pluie, le prince pourrait mettre tous ses sujets à l'abri dans son château, sans leur céder son appartement. L'évêque de Wurtzbourg était autrefois souverain à la nomination des chanoines du chapitre. Après son élection, il passait, nu jusqu'à la ceinture, entre ses confrères rangés sur deux files. Il le fustigeait. On espérait que les princes, choqués de cette manière de sacrer un dos royal, renonceraient à se mettre sur les rangs. Aujourd'hui, cela ne réussirait pas. Il n'est pas de descendant de Charlemagne qui ne se laissa fouetter 3 jours de suite pour obtenir la couronne d'Yvetot. J'ai vu le frère de l'empereur d'Autriche, duc de Wurtzbourg. Il chantait à Fontainebleau très agréablement, dans la galerie de François Ier, au concert de l'impératrice Joséphine. On a retenu Schwartz 2 heures au bureau des passeports. Laissé avec ma voiture dételée devant une église, j'y suis entré. J'ai prié avec la foule chrétienne, qui représente la vieille société au milieu de la nouvelle. Une procession est sortie et a fait le tour de l'église. Que ne suis-je moine sur les ruines de Rome? Les temps auxquels j'appartiens s'accompliraient en moi. Quand les premières semences de la religion germèrent dans mon âme, je m'épanouissais comme une terre vierge qui, délivrée de ses ronces, porte sa première moisson. Survint une brise aride et glacée, et la terre se dessécha. Le ciel en eut pitié, il lui rendit ses tièdes rosées. Puis la brise souffla de nouveau. Cette alternative de doute et de foi a fait longtemps de ma vie un mélange de désespoir et d'ineffables délices. Ma bonne sainte mère, priez pour moi, Jésus-Christ. Votre fils a besoin d'être racheté plus qu'un autre homme. Je quitte Wurtzbourg à 4 heures et prends la route de Mannheim. Entrée dans le duché de Bade. Village en goguette, un ivrogne me donne la main en criant « Vive l'empereur !» Tout ce qui s'est passé, à compter de la chute de Napoléon, est en Allemagne comme non avenu. Ces hommes, qui se sont levés pour arracher leur indépendance nationale à l'ambition de Bonaparte, ne rêvent que de lui, tant il a ébranlé l'imagination des peuples, depuis les Bédouins sous leurs tentes jusqu'aux Teutons dans leurs huttes. À mesure que j'avançais vers la France, les enfants devenaient plus bruyants dans les hameaux, les postillons allaient plus vite, la vie renaissait. À Bischofheim, où j'ai dîné, une jolie curieuse s'est présentée à mon grand couvert. Une hirondelle, vraie procnée, à la poitrine rougeâtre, s'est venue percher à ma fenêtre ouverte, sur la barre de fer qui soutenait l'enseigne du soleil d'or. Puis elle a ramagé le plus doucement du monde, en me regardant d'un air de connaissance et sans montrer la moindre frayeur. Je ne me suis jamais plaint d'être réveillée par la fille de Pandion. Je ne l'ai jamais appelée babillarde comme Anacréon. J'ai toujours, au contraire, salué son retour de la chanson des enfants de l'île de Rhodes. Elle vient, l'hirondelle, ramenant le beau temps et les belles années. Ouvrez, ne dédaignez pas l'hirondelle. François, m'a dit ma convive de Bischofheim, ma trisaïeule logeait à Combourg, sous les chevrons de la couverture de ta tourelle. Tu lui tenais compagnie chaque année en automne, dans les roseaux de l'étang, quand tu rêvais le soir avec ta sylphide. Elle aborda ton rocher natal le jour même que tu t'embarquais pour l'Amérique, et elle suivit quelque temps ta voile. Ma grand-mère nichait à la croisée de Charlotte. 8 ans après, elle arriva à Jaffa avec toi. Tu l'as remarquée dans ton itinéraire. Ma mère, en gazouillant à l'aurore, tomba un jour par la cheminée dans ton cabinet aux affaires étrangères. Tu lui ouvris la fenêtre. Ma mère a eu plusieurs enfants. Moi qui te parle, je suis de son dernier nid. Je t'ai déjà rencontré sur l'ancienne voie de Tivoli, dans la campagne de Rome. T'en souviens-tu? Mes plumes étaient si noires et si lustrées. Tu me regardas tristement. Veux-tu que nous nous envolions ensemble? Hélas, ma chère hirondelle, qui sait si bien mon histoire, tu es extrêmement gentille. Mais je suis un pauvre oiseau muet, et mes plumes ne reviendront plus.
je ne puis donc m'envoler avec toi. Trop lourd de chagrins et d'années, me porter te serait impossible. Et puis, où irions-nous? Le printemps et les beaux climats ne sont plus de ma saison. À toi l'air et les amours, à moi la terre et l'isolement. Tu pars. Que la rosée rafraîchisse tes ailes. Qu'une vergue hospitalière se présente à ton vol fatigué, lorsque tu traverseras la mer d'Ionie. Qu'un octobre serein te sauve du naufrage. Salue pour moi les oliviers d'Athènes et les palmiers de Rosette. Si je ne suis plus, quand les fleurs te ramèneront, je t'invite à mon banquet funèbre. Viens au soleil couchant happer des moucherons sur l'herbe de ma tombe. Comme toi, j'ai aimé la liberté, et j'ai vécu de peu.